Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Alléluia. Le titre de mon message ce matin est celui-ci, « La tendresse de Dieu ». La tendresse de Dieu. Nous allons regarder un livre qui s'appelle le livre de Deutéronome. Si vous connaissez, si vous débutez à étudier la Bible, j'aimerais vous aider un petit peu en vous disant que le livre de Deutéronome, en fait, c'est un bilan, c'est un résumé de tout l'Exode. Moïse va bientôt mourir, Moïse est très âgé, et Moïse va faire un discours qui va être écrit. Et le discours que Moïse va faire, c'est le livre de Deutéronome. Alors, le livre de Deutéronome, c'est un bilan, c'est un résumé de la sortie d'Égypte, de ce que Dieu a demandé, de ce que Dieu a dit à ses enfants. C'est un livre merveilleux à lire. Si vous voulez connaître, avoir un bon résumé de tout ce que le peuple a vécu du cœur de Dieu, il y a des pensées profondes qui viennent du cœur de Dieu qui vont être révélées dans le livre de Deutéronome. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est, lorsqu'on étudie la Bible profondément, lorsque les théologiens étudient la Bible, c'est un sujet qui n'a pu être découvert par Moïse que de façon littéralement miraculeuse. Moïse a découvert la tendresse de Dieu. En étudiant les religions du monde entier, et ce que je vous dis ce matin, si vous êtes un visiteur ici, si vous êtes pour la première fois, vous devez comprendre que je le dis sans aucune condamnation, sans aucun jugement, sans aucune attaque envers vous, et je le dis vraiment avec amour. Mais Dieu aime, et il y a un amour dans mon cœur pour les gens de toutes les religions, de toutes les croyances. Toutefois, je crois que Jésus seul est la vérité. Mais le Seigneur aime les gens de toutes les croyances et de toutes les religions. Et lorsqu'on regarde à toutes ces religions, parfois, il peut même y avoir des bonnes valeurs dans certaines religions, dans certaines pensées, mais toutes les religions du monde entier ont un dénominateur commun. Elles ont toutes un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, c'est cette distance, cette séparation entre Dieu et l'homme. Et toutes les religions du monde essaient d'apaiser leur Dieu. Apaiser le Dieu en qui il croit, apaiser les esprits. J'ai été missionnaire quelques mois sur Haïti il y a plusieurs années avec mon épouse et nous avons vu, nous avons côtoyé beaucoup de voodooisants et de voodoos et qui croient à ce qu'ils appellent des lois des esprits territoriaux et ils vont essayer d'apaiser ces esprits, de leur offrir des offrandes de fruits, de fleurs, de nourriture, et certains vont aller à des extrêmes terribles même d'offrir des hommes en sacrifice pour apaiser des esprits, mais aussi pour aller chercher une puissance pour avancer dans la vie. On a vu, nous, on était là-bas, on a vu ce qu'ils appellent les campagnes électorales où des tribus, littéralement des villages entiers, dansent sur la rue, chantant, dansant avec des bannières et des drapeaux, des torches la nuit, un village s'en va dans un sens, un autre village s'en vient dans un sens, et nous on passe avec les 4x4, on était un groupe de missionnaires, on passait comme ça, et le pasteur haïtien nous expliquait que ces deux groupes allaient se rencontrer, se bagarrer, se taper dessus et s'entretuer, parce qu'ils invoquent des lois, des esprits différents, et ils leur demandent puissance pour vaincre, puissance pour avancer, puissance pour être capable de gagner sur l'ennemi. Regardez partout autour de vous, si vous allez jusqu'au tréfonds là, les dernières terres qui n'avaient pas encore été rencontrés par les missionnaires Irian Jaya en Nouvelle-Guinée, ont découvert littéralement cette même pensée à l'autre bout de la planète, une autre langue, une autre culture, une autre couleur de peau, une autre mentalité complètement différente, mais toujours cette séparation de Dieu, toujours cet aspect de faire un sacrifice pour plaire à un Dieu, pour essayer de se rendre à un Dieu, mais aussi recevoir une force, recevoir une protection, être protégé des mauvais esprits par de bons esprits. Vous regardez aux centaines, pour ne pas dire de milliers, de gens, d'hommes et de femmes qui prennent leur premier-né quand la police ne les voit pas et qui lancent leur premier-né dans la rivière la Gange, hein, en sacrifice pour apaiser les dieux, encore aujourd'hui en 2008, mais aussi pour recevoir une protection des dieux. Il y a dans toutes les cultures, dans toutes les mentalités, que ce soit en Afrique avec les fétiches, que ce soit même, et j'aime les catholiques de tout mon cœur, je ne suis pas là pour faire le procès des catholiques ce matin, mais il y a même dans cette culture catholique, dans cette mentalité, je parlais avec des Italiens qui ont donné leur cœur à Dieu et qui m'expliquaient le cœur du catholicisme italien, qui me disaient, Christian, c'est Jésus est loin dans le catholicisme. Jésus est séparé de nous. Jésus est ce Dieu puissant, le Fils de Dieu qui a une colère contre le péché des hommes. Et Marie vient à notre secours, voyez-vous. Et constamment, cette pensée de séparation, elle est là. Elle est là aujourd'hui. Mais elle a toujours été là. Allez vers les sociétés les plus anciennes. Allez vers les cultures. Allez vers les anciennes civilisations. Allez un instant au Mexique. Moi, j'ai été à faire un voyage missionnaire au Mexique. On a monté en haut de pyramides Inca où pendant des siècles, on montait sur le sommet de cette pyramide pour offrir un enfant en sacrifice, offrir un homme en sacrifice, offrir des fleurs, encore des fruits, offrir de la nourriture, des animaux en sacrifice, toujours pour apaiser le Dieu Soleil, mais aussi pour recevoir une protection du Dieu Soleil et jamais trouver une paix nulle part entre l'homme et Dieu. Les civilisations anciennes gréco-romaines croyaient que les dieux étaient séparés des hommes, que les dieux n'étaient pas intéressés par ce que les hommes vivaient, qu'ils étaient désintéressés, qu'ils vivaient leur truc dans le ciel et que les hommes étaient sur la terre et que parfois ils pouvaient se mettre en colère et qu'il fallait les apaiser. Il fallait aussi aller chercher une puissance de la part d'eux. Cette mentalité, cette conception de Dieu chez l'homme a toujours été là, depuis le début. Elle est là aujourd'hui, elle a été là à travers les anciennes civilisations, mais elle est là depuis le début. Et nous allons regarder ce matin à un homme qui s'appelle Moïse. Et de son temps à lui, Moïse, il vivait aussi dans ce contexte-là. Il vivait dans un contexte où les Égyptiens voyaient leur Dieu qui pouvaient se mettre en colère et qui devaient apaiser leur Dieu. Et les sorciers venaient. Et c'était aussi une grande question de puissance. Et maintenant, si vous lisez, si vous avez déjà lu le livre de la Genèse, il y a très peu d'écrits sur l'amour et la tendresse et la douceur de Dieu, même dans le livre de la Genèse. Même l'histoire d'Abraham. C'est quoi l'histoire d'Abraham? C'est Dieu qui vient se révéler et qui dit « Je suis capable. Je suis puissant. » Abraham, tu ne peux pas avoir d'enfant, mais je peux te rendre capable d'avoir un enfant. Abraham, je peux te multiplier. Abraham, je peux te protéger. Abraham, je peux marcher avec toi. Quelle est l'image de Dieu qu'on voit à travers la vie de Joseph? Encore cette image d'un Dieu qui est capable, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui dit, et vous devez comprendre ceci ce matin parce que la majorité d'entre vous, vous êtes chrétiens. Vous avez donné votre cœur à Dieu, vous croyez que le Seigneur Jésus règne sur tout l'univers. Mais anciennement, même les Hébreux, sans révélation, croyaient que leur Dieu était un Dieu territorial. Peut-être que vous ne saviez pas ça. Mais les Hébreux croyaient ça. Il fallait que Dieu se manifeste. Il fallait que Dieu les amène plus loin. À un moment donné dans sa vie, David a eu une révélation. David ne le savait pas. Et tout à coup, David a eu une révélation. Il s'est dit, mais Seigneur, si je vais à l'autre bout du monde, tu es là. Si je viens ici, tu es là. Si je monte sur les montagnes, tu es là. Si je descends aux enfers, Seigneur, tu es là. Tu es partout, Seigneur. Mais pour David, c'était une révélation nouvelle. David croyait que son Dieu était le Dieu du territoire d'Israël. À l'époque, quand les armées s'affrontaient, ils se rangeaient en ordre de bataille avec leur Dieu, avec leurs idoles, avec leurs fétiches. Et Israël, pour certains Hébreux qui n'avaient pas une relation personnelle avec Dieu, qui ne connaissaient pas vraiment personnellement Dieu, qui n'avaient pas reçu une révélation personnelle de Dieu comme David, pour certains d'entre eux, leur idole, c'était l'Arche de l'Alliance. Ils s'attachaient à la forme des choses plutôt qu'au fond des choses. Et ils allaient en guerre, ils se disaient, ben l'histoire nous a prouvé que notre Dieu est plus fort que leur Dieu. Le Dieu d'Israël est plus fort que les dieux Baal. Et on va aller à la guerre et on va gagner. Et il y avait cette mentalité-là, mais elle remonte très loin. Elle remonte jusqu'à Moïse. Et même Moïse, lorsqu'il a son buisson ardent et qu'il rencontre Dieu, pour certains d'entre vous, peut-être ce matin, c'est extraordinaire que Moïse ait rencontré Dieu dans un buisson ardent. Et ça l'est. Mais Moïse vivait à une époque où il y avait beaucoup de magie, beaucoup de surnaturel, où l'athéisme n'existait pas, 0% d'athéisme. Tous les hommes croyaient qu'il y a un Dieu. Et quand Moïse a rencontré Dieu, Dieu a dû lui dire, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Parce que pour lui, il rencontre une divinité, il rencontre un Dieu, un esprit de l'au-delà. Il faut que Dieu lui explique. Et Dieu va enseigner Moïse. Il va lui dire, « Je suis le Dieu de toute éternité. Je suis le Dieu tout-puissant, Moïse. » Et je vais montrer ma puissance. Et Moïse va aller en Égypte, et vous connaissez le livre d'Exode. Le livre d'Exode est selon 100% des théologiens et de ceux qui étudient la Bible, des érudits de la parole de Dieu, le livre de l'Exode est le livre où il y a le plus de miracles, de spectaculaires, de puissances dans un seul livre. Le livre d'Exode, avant et après, jamais il n'y a eu autant de puissance déployée de la part de Dieu. Mais on voit aussi dans le livre d'Exode un Dieu qui peut se mettre en colère, un Dieu qui peut juger. Et il se passe deux scénarios simultanés. Dieu va sauver son peuple de l'Égypte à travers une puissance extraordinaire, mais simultanément, Dieu va juger l'Égypte. Il va abattre sa main. Dieu fait deux choses en même temps. Il retire ses enfants de l'Égypte, mais il juge l'Égypte. Et Moïse va vivre dans la puissance de Dieu. Moïse va découvrir de plus en plus à quel point Dieu est grand. Et à un moment donné, Moïse dit, « Mais Seigneur, comment est-ce que tu vas faire pour tous les nourrir? » Et Dieu va dire ceci, « Moïse, tu ne comprends pas qui je suis. Y a-t-il une chose qui soit impossible à l'Éternel? » Hier, on est passé devant une petite boucherie. Là où on habite, et il y avait des cailles. Vous savez, c'est quoi des cailles? Hein? Nous, on n'a pas des cailles au Canada. Parfois, ça caille au Canada, mais on n'a pas de cailles. Ça, c'est autre chose. Je traduis pour mes parents, caille, ça veut dire il fait froid. Et je regardais les petites cailles. Et la Bible dit, c'est des tout petits poulets, hein, vous savez. Et la Bible dit que Dieu a fait tomber des cailles. Il y en a eu à peu près jusqu'ici, haut comme ça, partout. Et vous savez qu'il y avait 600 000 hommes de pied en Israël. 600 000 hommes de pied quand ils sont sortis d'Égypte. Plus les femmes, plus les enfants, ça fait à peu près, sobrement, 2 millions de personnes à nourrir. Et Dieu les a tellement nourris, ils ont eu trop de cailles. Mais maintenant, restez avec moi. Dieu a montré à Moïse sa puissance. Je suis puissant. Mais il manquait quelque chose à Moïse. Parce qu'à un moment donné, Moïse ne comprend pas le cœur de Dieu. Il va descendre, il va intercéder pour le peuple, mais il va descendre avec les tables de la loi. Et la Bible dit qu'il va se mettre en colère. Et il va briser les tables de la loi. Et le Seigneur voit ça. Et le Seigneur l'aime. Si vous remarquez, à moins que je me trompe, si vous avez trouvé un reproche là-dessus, dites-le moi, je ne l'ai jamais trouvé. Mais je n'ai jamais trouvé un verset où Dieu a reproché à Moïse de briser les lois, de briser les tables de la loi. Mais Moïse, Dieu va être silencieux là-dessus, mais il va reprendre son serviteur près de lui. Et il veut lui enseigner quelque chose. Et ce matin, ce que je vais vous parler, c'est quelque chose d'extrêmement important pour notre vie chrétienne. La tendresse de Dieu. L'amour, la douceur et la tendresse de Dieu. Deux points qu'on va voir ensemble ce matin, ce ne sera pas un long message. Premièrement, la révélation de sa tendresse. Et deuxièmement, les bénédictions de sa tendresse. Premièrement, la révélation de sa tendresse. On ne sait pas comment, mais lorsqu'on regarde Deutéronome chapitre 30 et verset 3, Moïse va venir, et si vous n'avez pas une Bible, le verset apparaît à l'écran, je ne sais pas si on voit très bien, voilà. Moïse va venir vers le peuple à la fin de sa vie. Et regardez-moi ici un instant. C'est extraordinaire. D'un contexte spectaculaire, dans un contexte de puissance, dans un contexte de très, très grande puissance, dans un contexte de conflit, de guerre, d'avancement, de la puissance de Dieu, un contexte où le feu de Dieu est tombé, un contexte où ceux qui se sont rebellés contre Dieu, la terre s'est ouverte, ils ont été engloutis dans la terre, dans un contexte où Dieu paraît tellement méchant, où Dieu paraît tellement un Dieu juge, où certains versets vont dire que le Seigneur va déployer avec grandeur sa puissance. À d'autres moments donnés, on voit Dieu qui est irrité. Un verset dira que Dieu est redoutable et impartial, qu'il est un feu consumant. Et de nulle part comme ça, Moïse arrive et il dit aux gens, si vous vous éloignez de Dieu, vous allez vraiment briser son cœur. Mais si vous revenez à lui, il reviendra de la fureur de sa colère et il vous montrera sa tendresse. Ça, c'est Deutéronome 13. Mais maintenant, regardez celui-ci. Deutéronome 30, verset 3, dit ceci. Le Seigneur, ton Dieu, changera ta destinée. C'est très fort, ça. Ça, c'est pour vous ce matin. Le Seigneur, ton Dieu, changera ta destinée et il te montrera sa tendresse. Mais le sens du texte ici, la pensée du texte, c'est que le Seigneur va changer ta destinée en te montrant sa tendresse. Deux pensées pour vous ce matin. Premièrement, la révélation de sa tendresse et les bénédictions de sa tendresse. Dieu a vu un besoin dans le cœur de Moïse. Moïse, il lui manquait quelque chose. Il savait que Dieu est puissant, il savait que Dieu peut pourvoir, il savait que Dieu peut protéger, il savait que Dieu peut les devancer, que Dieu est avec eux, que Dieu peut les diriger. Mais il manquait à Moïse d'expérimenter personnellement, la présence et l'amour et la tendresse de Dieu. Restez avec moi. Alors Dieu va prendre Moïse et Moïse va remonter vers la montagne. Moïse va aller vers il va monter pour rencontrer Dieu. Il va intercéder pour le peuple. Il va dire, Seigneur, marche avec nous. Et Dieu est peiné parce que le peuple est rétrograde. Le peuple est révolté contre Dieu. Et Dieu est peiné de cela. Et Moïse va plaider avec Dieu. Dieu est une personne. Dieu a des sentiments. Dieu a des émotions. Et Dieu est affecté par nos comportements. Dieu est très affecté par le comportement que nous avons les uns envers les autres. Et comment on se parle. Et Dieu est peiné. Et Dieu dit, je veux plus marcher avec eux. Et Moïse va monter sur la montagne et il va plaider avec Dieu. Et finalement, Dieu dit, OK, j'irai marcher avec toi. Et là, Moïse a une autre requête. Il va dire, montre-moi ta gloire. Et Dieu va dire non. Et beaucoup de chrétiens, et moi aussi pendant des années, j'ai chéri ce verset où Moïse a dit, montre-moi ta gloire. Mais quel cœur il avait, Moïse, d'aller encore plus profondément avec Dieu. Mais Dieu a vu quelque chose dans le cœur de Moïse. Ma gloire, tu l'as vue. Ma puissance, tu l'as vue. Et tu la verras encore. Et je vais te la montrer encore. Mais maintenant, là, c'est pas ce que tu as besoin. Il y a un manque dans ta vie, Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, tu veux voir ma puissance. Tu veux voir ma gloire. Tu veux voir la plénitude de ma puissance. Mais Dieu va dire à Moïse, il te manque quelque chose. C'est pas ma gloire que je vais te montrer. C'est ma bonté. Et la Bible a dit, demain matin, tu reviens ici. Et maintenant, suivez-moi bien, c'est très important pour vous. Le Seigneur va dire à Moïse, demain matin, tu reviens ici. Et le Moïse revint. Et le Seigneur, littéralement, il a fait ce qu'il a dit. Il a pris Moïse dans sa main. Il l'a mis dans le creux d'un rocher. Et pendant 40 jours, la Bible dit, littéralement, là, le sens ici dans l'hébreu, dans Exode 33, 19, le sens du verset, vous pourrez le lire à la maison, c'est pas que Dieu a parlé à Moïse. Moïse, tu sais, je suis bon, Moïse. Moïse, je veux dire, je suis gentil. Je suis un bon gars, Moïse, crois-moi. Tu m'as vu déployer ma puissance, mais oui, je suis fort, mais non. La Bible dit que Dieu a déversé son amour sur Moïse pendant 40 jours. Vous savez, il y a eu un mariage hier. Hein? Je ne sais pas si le pasteur aurait fait le mariage, si les mariés lui avaient dit, pasteur, disons dans un cours de préparation au mariage, le pasteur s'assoit avec les futurs mariés et il pose la question à la future mariée, pourquoi est-ce que tu veux te marier avec lui? Pour une seule raison. Parce qu'il a vraiment des gros bras. Vous croyez qu'il aurait fait le mariage? Non. Il aurait retardé la date. Il aurait repoussé la date. Hein? On aurait dit, il y a un problème là. Bon, il y a des femmes qui sont ici ce matin, vous dites, mais moi, mon mari, c'est pas du tout son cas. Ça, c'est autre chose. Mais Dieu voyait sa relation entre lui, le Seigneur, et Israël. Et entre lui et son serviteur Moïse. Il s'est dit, non, il y a un manque ici là. Ils me suivent pour mes gros bras. Ils me suivent pour ma force. Et voyez-vous, parfois, chez certains chrétiens, leur relation avec Dieu se limite à la puissance de Dieu. Oh Seigneur, tu peux nous protéger. Dans ce monde où rien ne va plus, c'est vrai. Oh Seigneur, tu peux me guider, et c'est vrai. Oh Seigneur, tu peux mettre ta main sur mes enfants, c'est vrai. Mais écoutez-moi bien. Seigneur, tu peux m'enseigner, tu peux me diriger, tu peux me dire le chemin, c'est tout vrai. Mais on n'est pas juste des associés avec Dieu. On n'est pas juste, et même Jésus va faire entrer ses disciples dans cette vie. Il va dire, attendez, l'esclave ne connaît pas son maître. Je veux vous amener dans une vie chrétienne beaucoup plus profonde, en amitié avec moi, communion. Et Moïse, Dieu voit son serviteur Moïse, et il dit, attends, lui là, il connaît mes gros bras, mais il a besoin de connaître mon cœur. Je suis Dieu Tout-Puissant, mais je suis tendre aussi. Je suis un Dieu de douceur. Et maintenant, regardez ceci. Beaucoup plus tard, je ne sais pas combien d'années plus tard, mais beaucoup plus tard, Moïse est rendu très vieux. Il va parler à Israël et il va dire, « Et l'Éternel, si tu t'approches de Dieu, l'Éternel te montrera sa tendresse. » Moi, je suis certain que le peuple d'Israël qui ne connaissait pas trop Moïse se sont dit, « La tendresse de Dieu? Mais de quoi est-ce qu'il parle, lui, la tendresse de Dieu? Dieu, c'est du feu. Dieu, c'est la puissance. Dieu, c'est lui qui a ouvert la mer. Dieu, c'est lui qui a jeté le cheval et son cavalier dans la mer. Dieu est avec nous. Alléluia! La tendresse de Dieu. » Et Moïse voit, parce que maintenant, il l'a vécu, il voit dans le peuple un besoin de connaître, d'expérimenter personnellement la douceur, la tendresse, l'amour et la bonté de Dieu. Moïse avait ce besoin dans sa vie, ce profond besoin, mais il y a aussi un moyen. Souvenez-vous de ces deux mots. Marquez mes paroles. Vous ne connaîtrez pas profondément la tendresse de Dieu à l'Église. Non. Dieu n'a pas fait une réunion en disant, Moïse, on va faire venir une chorale, des musiciens, on va faire venir un prédicateur étranger, on va faire une grosse convention, un gros truc, une grosse conférence, et puis là, Moïse, là, je vais te montrer ma tendresse. Non. Vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Tu vas aller te cacher dans le creux d'un rocher. Frères et sœurs, l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église, c'est l'épouse de Christ. L'Église est extrêmement importante. Mais la réunion du dimanche matin, ça doit être le cumul de la semaine. Ça doit être le résultat. Nous vivons les fruits de notre marche avec Dieu durant la semaine. Quand on arrive ici, on amène ce qu'on a vécu avec Dieu. Et maintenant, ce que je vous dis, ne dites pas amen parce que ça va être difficile. Mais maintenant, ce que je vous dis, comprenez, je vous le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur, et vraiment avec amour pour vous. Mais il y a des gens qui passent toute leur semaine dans la médisance, dans la critique, dans la colère, à juger les autres, à jamais se regarder, à pas passer de temps avec Dieu. Ou dans toutes sortes, ils se nourrissent de toutes sortes de choses du monde. Et là, ils arrivent à l'église, ils sont littéralement vides spirituellement. Ils arrivent à l'église épuisés spirituellement et ils se sont tellement nourris de choses qui les détruisent et qui les empoisonnent. Ils arrivent à l'église empoisonnés, détruits, vides et fatigués. Oh! Et puis, ils veulent un petit peu d'eau vive dans la prison. Ah! Ils repartent et disent, oh, mais ça m'a fait du bien, pasteur Fabien a prêché ce matin, mais qu'est-ce que c'était bon? Ils repartent comme ça. Dieu n'a pas fait une réunion avec Moïse. Il n'a pas dit, fais venir tous les anciens et tout Israël et je vais vous montrer ma tendresse. Non. Toi et moi perso. Et Dieu a pris Moïse et l'a amené dans le creux du rocher. Maintenant, remarquez bien ceci. Ça n'a pas duré 5 minutes. Ça n'a pas été 15 minutes avec Dieu. Ça a été 40 jours. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous enfermer 40 jours avec Dieu. Ben, si Dieu vous le dit, faites-le. Mais moi, je ne suis pas capable de prier pendant 40 jours. Ce n'est pas la pensée ici d'aller 40 jours avec Dieu. C'est la pensée de donner du temps à Dieu. Du temps à Dieu. C'est fascinant quand même. Hein? C'est même mystérieux. Qu'est-ce que Dieu a montré à Moïse pendant 40 jours? Il y en a qui croient que Moïse a reçu la loi. Écrire la loi, ça prend 5 minutes. Mais Moïse est resté avec Dieu pendant 40 jours. Et la Bible dit que pendant 40 jours, vous savez ce que Dieu a fait? Il a nettoyé les pensées de Moïse. La Bible dit que Jésus nettoie son épouse par sa parole. Le Seigneur a déversé son amour sur Moïse. Il a déversé son amour sur Moïse. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Je vous ai déjà raconté l'image d'une perle. Comment on fait une perle? Je n'ai pas parlé de ça ici. Hein? Oui, un petit peu, oui. Je la redis. Vous savez c'est quoi une perle? Hein? Une perle, c'est un grain de sable. Un grain de sable qui rentre dans une huître. Et quand le grain de sable il rentre dans l'huître, il n'est pas le bienvenu. Et il égratigne, il graffigne l'huître. Mais l'huître, si elle n'arrive pas à le mettre dehors, elle va le garder. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à le recouvrir de sa nature, du nacre. Et le petit grain de sable, vous croyez que ça a de la valeur, un grain de sable? Allez au Galerie Lafayette essayer de vendre un grain de sable. Vous croyez que vous allez réussir? Ça vaut rien, un grain de sable. Un homme sans Dieu. Mais un homme qui se met à s'approcher de Dieu. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. On est séparé de Dieu. Nos péchés, nos manquements et tout, on est comme un grain de sable. Mais Dieu, il nous prend. Il ne nous rejette pas. Il nous prend. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il se met à nous recouvrir de nacre. Mais imaginez que si le petit grain de sable, il se fait recouvrir de nacre pendant 15 minutes. Et après, il sort. Ça vaut cher? Je sais pas. Mais pour faire une grosse perle, ça prend des années. Et pendant des années, le petit grain de sable, il se fait recouvrir. Il se fait recouvrir. Il se fait recouvrir de nacre. Vous voulez un chrétien qui a de la valeur? On est tous égaux devant Dieu. Comprenez-moi bien. On a une valeur de base devant Dieu. Mais le Seigneur veut nous enrichir. Et ce qui enrichit un chrétien, c'est lorsqu'il passe du temps seul avec Dieu. Et quand tu te retrouves seul avec Dieu et que tu sors, vous me permettez de vous tutoyer, que tu sors de ce monde de stress, ce monde d'angoisse, ce monde de plus en plus méchant, en colère, ce monde où rien ne va plus, ce monde tellement égocentrique où tu crois que tu peux te confier en quelqu'un, mais il attend juste que tu te retournes pour prendre ta place. Et que tu sors de ce monde et que tu dis, moi, je vais rentrer dans l'huître. Je vais être avec le Seigneur. Et le Seigneur, il te recouvre. Et plus tu passes du temps avec lui, plus le Seigneur te montre sa douceur et sa tendresse. Et toi, tu t'en rends pas compte. Mais alors que tu recherches à connaître Dieu, le Seigneur, il te transforme. Alors que tu ne fais que chercher sa face, que tu ne fais que te retrouver seul avec lui, et que tu te bats contre tout pour te retrouver seul avec Dieu, le Seigneur, il te transforme. Le Seigneur, il te transforme. Le Seigneur, il te transforme. Et le Seigneur, il te transforme encore. Et Moïse est sorti de là. C'était plus le même homme. Je termine en vous disant ceci. Je veux dire ceci avant. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que Moïse n'a pas fait une étude exhaustive sur le savoir de la bonté de Dieu en théologie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je crois à la formation en théologie, j'en ai fait. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse, je vais te parler de ma douceur. Je vais déverser ma bonté sur toi. Et vous savez ce que Moïse a dit après au peuple? Si vous revenez à Dieu, l'Éternel vous montrera sa tendresse. Moïse avait expérimenté quelque chose et maintenant il rêvait que les autres l'expérimentent. Et je ne parle pas de savoir ou de connaissance intellectuelle. Je parle d'expérience spirituelle, pas il y a 20 ans, aujourd'hui. Et n'est-ce pas extraordinaire que le Seigneur veut pas juste vous... Je suis certain, si vous êtes chrétien ici et vous marchez avec Dieu, je suis certain que je sors ici et puis je vous prends par la main, je vous pose la question un après l'autre. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Oui, je le sais, oui, je le sais. Tout le monde va dire qu'ils savent que Dieu les aime. En général. Mais combien le ressentent? Combien ressentent l'amour de Dieu présentement près d'eux? Combien ressentent la chaleur du Saint-Esprit présentement dans leur âme qui les embrase? Combien ont expérimenté l'amour de Dieu? Voyez-vous, Dieu veut nous parler à certains moments donnés, mais à d'autres moments donnés, il veut nous montrer son amour. C'est comme un époux qui dit à sa femme, je t'aime, mais il ne la prend jamais dans ses bras. C'est pas mal, mais il manque quelque chose. Il manquait quelque chose dans Moïse, il manquait quelque chose dans le peuple de Dieu. Et encore aujourd'hui, il manque cette chose chez beaucoup d'enfants de Dieu, de ressentir. Vous savez, je vais vous gêner, mais la Bible parle des bras d'amour de Dieu. La Bible parle que Dieu veut nous entourer de ses bras. La Bible parle que Dieu veut s'approcher de toi et qu'il veut te serrer dans ses bras. Et tu vas vivre, expérimenter, goûter l'amour de Dieu. Aujourd'hui, le mot connaissance pour nous, ça signifie savoir. Mais anciennement, le mot connaissance, même au temps du Nouveau Testament de l'apôtre Paul, le mot connaissance signifiait pénétrer quelque chose, rentrer à l'intérieur de quelque chose. Et quand l'apôtre Paul dit, je prie que vous le connaissiez. Quand l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, je prie que vous connaissiez son amour. Il parle pas juste de savoir intellectuel. Oh, je prie Dieu que vous puissiez lire tous les versets dans la Bible où Dieu parle qui vous aime et que vous puissiez vous les répéter et les dire à haute voix et croire fortement et fermer les yeux comme ça et dire Jésus m'aime, je l'ai lu 20 fois là. C'est pas ça que l'apôtre Paul voulait dire. Il a dit, je prie que vous puissiez rentrer dans l'amour de Dieu. Quand il parle de connaissance, à l'époque, quand deux hommes se parlaient et qu'un homme disait à un autre homme, j'ai la connaissance de ceci ou de cela, ça voulait dire, je suis rentré à l'intérieur d'eux. Si un homme disait, j'ai la connaissance, disons, des mathématiques, eh bien, je suis pénétré dans les mathématiques, je maîtrise les mathématiques, j'ai expérimenté cela. Et quand l'apôtre Paul dit, je prie que vous connaissiez l'amour de Dieu, il est en train de dire qu'il prie pour les Éphésiens. Et Éphésiens, c'est une des meilleures églises du Nouveau Testament. Mais il leur manquait quelque chose. Et Paul dit, je prie que vous puissiez connaître l'amour, que vous puissiez pénétrer dans l'amour de Dieu. Et ça va vous changer. En terminant, quelques bénédictions. Il y en a tellement, mais quelques bénédictions en terminant que nous procure une fraîche révélation de la tendresse de Dieu. Premièrement, ça apparaît à l'écran, ça nous procure une profondeur de vie. Le Seigneur aime tout le monde, mais je vous dis ceci, et je veux vraiment avoir de l'amour pour tout le monde. Mais je vous dis ceci, il y a des gens avec qui on parle, on sent qu'ils sont légers spirituellement. Je ne veux pas les juger. Je ne veux pas que vous pensiez à personne ce matin, je veux vous penser à vous. Il y a des gens qui sont légers avec Dieu. Et le Seigneur les aime. Mais ce qui va amener une profondeur dans leur vie, c'est de goûter à l'amour de Dieu. Ce n'est pas d'étudier plus la religiosité ou la religion ou des trucs comme ça. Non. Il faut lire la parole. Mais il y a des gens qui peuvent lire la parole. Et la parole, vous savez qu'elle est un livre scellé, la Bible dit. À travers le prophète, Dieu a dit que sa parole est un livre scellé. Vous pouvez connaître toute la Bible par cœur et c'est possible qu'elle ne vous change même pas. Parce que la lettre tue, mais l'esprit la vivifie. Et maintenant, notez bien ceci. Moïse, après 40 jours avec Dieu, il est devenu un homme encore beaucoup plus profond. Il y a des chrétiens, moi j'ai vu des chrétiens en France qui connaissent la puissance de Dieu. Ils connaissent la puissance de Dieu. J'ai rencontré des chrétiens en France qui ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie, mais qui sont restés légers. Il leur manque une profondeur avec Dieu. La deuxième bénédiction qui vient, c'est qu'elle change notre message. Elle change notre message pour les gens autour de nous. Dans Jacques, vous pourrez le lire à la maison, mais Jacques va dire ceci. Jacques a expérimenté la tendresse de Dieu. Jacques a eu une révélation de la tendresse de Dieu. Jacques dira que le Seigneur se laisse fléchir facilement. Il a pris ça où, lui? Il a trouvé ça comment? Il a une révélation de Dieu. Il est allé dans le lieu secret, Dieu lui a parlé. Il sait que Dieu, pour Dieu, il y a blanc, il y a noir, il n'y a pas de zone grise. Il sait que Dieu est intransigeant dans sa sainteté. Mais le pire des pécheurs peut venir à lui et plaider, « Oh Dieu, pardonne-moi. » Et Jacques dit, « Dieu se laisse fléchir facilement. » Il a une révélation de la tendresse de Dieu. Si vous avez une révélation de la tendresse de Dieu, ça va changer votre message. Ça va changer ceux qui prêchent. Ça va changer votre prédication. Ceux qui enseignent les enfants, ça va changer votre enseignement. Il va y avoir une profondeur. Ceux qui élèvent leurs enfants, ça va changer comment vous allez élever vos enfants. Ceux qui soutiennent des chrétiens ou qui accompagnent des chrétiens dans leur foi, ça va changer votre façon de le faire. Ceux qui évangélisent, ceux qui donnent des colis à Phoebe les jeudis, ça va changer votre façon de donner un colis. Ceux qui sont parfois, vous savez, moi je suis à Phoebe, ça fait quelques temps, ça fait un mois que je suis pas là, mais c'est pas toujours facile Phoebe. Il y a des gens parfois qu'ils n'ont pas toujours un très bon tempérament, ils connaissent pas le Seigneur et puis ils débarquent et puis le colis est pas assez gros et c'est pas évident, ils se plaignent. Leur plainte peut commencer à nous tâcher. On peut devenir négatif envers eux. Mais quand on connaît la tendresse de Dieu, hallelujah, on les voit plus comme avant. Ça change notre message. Une autre bénédiction. Elle dépose un rêve dans notre cœur pour le peuple de Dieu. Après 40 jours, ça c'est extraordinaire ce que je vous dis là, moi j'en suis béni. Après 40 jours de tendresse et de l'amour et de la bonté de Dieu, Moïse va se mettre à genoux devant Dieu et il y a une prière qui va sortir de son cœur. Vous savez ce qu'il va dire? Marche avec nous. Je connais que tu es un Dieu qui est bon. J'aimerais tellement maintenant que tout le peuple te connaisse comme je te connais. Et Moïse s'est mis à rêver. Qu'est-ce que le peuple serait beau s'il pouvait tous connaître la tendresse de Dieu comme ça. Si vous connaissez la tendresse de Dieu, ça va mettre un rêve dans votre cœur. Vous allez rêver de la tendresse de Dieu dans votre couple. Vous allez rêver de la tendresse de Dieu dans votre famille, avec vos enfants, dans votre église. Vous allez rêver d'une église où il y a l'amour et la tendresse de la gloire de Dieu. Ça va vous donner un rêve. Une autre bénédiction. Elle fortifie notre foi dans le désespoir le plus total. Moïse, j'ai pas le temps parce que ça serait très long, mais Moïse va se retrouver dans une situation complètement désespérée. Regardez bien ceci. Le peuple ne veut pas entrer en Canaan. Le peuple brandit les poings contre Dieu. Le peuple dit, on s'en fout, je m'excuse, mais c'est comme ça, on s'en balance complètement. On veut pas, on lève le poing contre Dieu, on veut pas y aller. Et même, ils ont donné à Dieu des mauvaises intentions. Ils ont dit, Dieu nous a amenés ici pour nous tuer. C'est grave dire ça de Dieu. Et Dieu se met en colère, et Dieu veut les détruire, et Dieu n'en peut plus. Et Moïse se retrouve dans une situation complètement désespérée. Et la Bible dit que Moïse va venir devant Dieu, il va prier pour le peuple. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, pardonne-leur comme le commande l'immensité de ton amour. Vous savez de quoi il parlait? Il parlait de sa rencontre qu'il avait eue. Tu m'as montré combien tu es bon. Tu m'as montré combien tu es un Dieu de douceur. Tu ne peux pas les détruire. Et Moïse a été capable de se retrouver dans une situation complètement désespérée et voir l'espoir parce qu'il avait goûté à l'amour de Dieu. Frères et sœurs, si dans une situation de crise, vous ouvrez la parole et vous cherchez une promesse, c'est bien. Mais j'aimerais vous dire ceci, moi. Ce qui va vous tenir dans les moments les plus difficiles de votre vie, c'est d'avoir goûté combien l'Éternel est bon. C'est d'avoir expérimenté dans le lieu secret, au creux du rocher, les bras d'amour de Dieu. Et croyez-moi, même quand la tempête vient frapper, vous savez que Dieu vous aime. Jésus pouvait dormir dans la tempête parce qu'il savait que son Père l'aimait. Il dira, mon Père est toujours avec moi. Le bateau peut couler, tant pis, mon Père est avec moi. Le bateau ne coule pas. Avez-vous remarqué que le bateau est plein d'eau? Mais il ne coule pas. Vous avez déjà remarqué ça? La Bible dit qu'ils viennent vers Jésus, ils disent, sauve-nous, nous périssons, le bateau est plein d'eau. Le bateau était plein d'eau. Avez-vous remarqué qu'ils n'ont pas coulé? Il ne coulait pas le bateau. Il ne faut même pas qu'il soit plein d'eau pour couler. Hein? Si le Père est là, on ne coule pas. Et Jésus peut dormir parce qu'il sait que son Père l'aime. Et voyez-vous, si au jour de la crise, si au jour de la tempête, vous allez à Dieu pour lui demander une révélation de sa tendresse, il va vous la donner. Mais j'ai mieux pour vous. Allez chercher la révélation avant la tempête. Connaissez l'amour de Dieu avant la montagne. Avant la vallée de l'ombre de la mort. Et dernièrement, je dis ceci, et je termine avec ceci, j'invite les musiciens à s'approcher, ou je crois qu'il y a une... La tendresse de Dieu, elle va changer votre destinée. Marquez mes paroles. Vous voulez changer de vie? Il vous faut connaître l'amour de Dieu. Vous voulez que ça change à la maison? Il vous faut connaître l'amour de Dieu. Écrivez ce verset. Gardez-le, chérissez-le, croyez la parole de Dieu. Deutéronome 33. L'Éternel te montrera sa tendresse, il changera ta destinée. Quand Dieu montre sa tendresse, il change la destinée. Vous savez qui était Moïse au début, hein? Vous savez qui était Moïse au début, hein? Moïse était un chef d'armée. Moïse était le chef de l'armée de Pharaon. Il était un homme de guerre. Il était un homme dur. Il était un leader. Il était un homme d'une grande prestance, d'un grand orgueil. Un homme fier. Un homme pas très doux, pas très tendre. En fait, lorsqu'il a voulu libérer son peuple, qu'est-ce qu'il s'est dit? Avec mes mains, je vais libérer le peuple d'Israël. Moi, je pense... Vous savez, Moïse est venu, il a vu un Égyptien qui faisait mal à un Hébreu. Moïse a tué l'Égyptien de ses mains. Pas d'armes, rien. Il fallait vraiment être méchant. Il fallait vraiment être un violent. Monter dans une violence incroyable. Moïse a fait des guerres. Il a brandi l'épée. Il s'est battu pendant des heures sous un soleil de plomb. C'était un homme dur, un homme de colère, un homme de violence. Et moi, je suis convaincu que Moïse s'est dit, je vais tuer l'Égyptien, ça va faire la révolution et on va renverser le Pharaon et on va prendre la place. Et moi, je serai le nouveau pharaon. Peut-être qu'il s'est dit ça. Je ne sais pas, mais peut-être qu'il s'est dit ça. Et le Seigneur avait autre chose pour lui. Parce que la Bible dit que ce sont les doux qui hériteront la terre. Les doux auront le pays. Et Dieu a pris Moïse. Il dit, attends. Il l'a amené au désert. Et quand on regarde la fin de la vie de Moïse, regardez le début, un homme violent. Et regardez Moïse lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'homme plus doux que lui. Pourquoi est-ce qu'il est doux? Parce qu'il a découvert la tendresse de Dieu. Plus qu'on passe du temps avec Dieu, plus qu'on devient comme Dieu. Ce n'est pas par ses efforts qu'il est devenu doux. C'est parce qu'il a découvert la tendresse de Dieu. Amen.